Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à chacun d'entre vous et merci pour les prières formulées à trois reprises pour ce temps de message. Et on a besoin au moins de prier par trois fois pour écouter la parole de Dieu et nous préparer à ce qu'il va nous dire. Nous poursuivons effectivement ce matin notre lecture du livre des psaumes et nous voici parvenus au psaume 6. Nous l'avons vu jusqu'à présent dans les psaumes précédents, confronté à ses ennemis, à des personnes qui lui veulent du mal, David trouve son refuge auprès de son Dieu. Il crie à lui et il attend l'intervention de celui qu'il a tant de fois délivré. Il sait qu'il peut compter sur le Dieu véritablement juste, sur le Dieu de grâce qui a fait alliance avec son peuple et qu'il a choisi lui, David, pour être roi d'Israël, son représentant sur terre. Dans le psaume 6, nous retrouvons un contexte similaire. David fait encore face à des adversaires, mais ces derniers ne triompheront pas. Et s'ajoute à ce contexte un état de santé préoccupant. Comme nous allons le voir dans un instant, David est visiblement malade, et les premiers mots de sa prière semblent nous indiquer qu'il est coupable d'une faute ou de plusieurs, mais nous ignorons lesquels. Le David que nous avons peut-être en tête, brave face à Goliath, homme de guerre vaillant, nous apparaît ici tout faible, gémissant, craintif. Et dans ces sœurs sombres, qui sont les siennes, que fait notre psalmiste? Il se tourne vers celui qui entend les prières. Et de même, dans nos heures sombres, et tant mieux si ce n'est pas ce que nous vivons en ce moment, dans nos heures sombres, lorsque le péché a triomphé de nous, lorsque Dieu nous semble loin à cause de nos fautes, savons-nous que nous pouvons encore nous tourner vers le Dieu de David, qui est notre Dieu. Et comme les psaumes précédents, nous remarquons une évolution entre le début et la fin du psaume. Au début, nous sommes sur le ton de la supplication. David est en mauvaise posture. Et à la fin, David clame devant ses ennemis son assurance, sa confiance en Dieu. Et entre les deux, le chagrin, les larmes en abondance. Et ce psaume nous laisse de l'espoir. Quel espoir? Que même quand je souffre à cause de mon péché, je peux encore compter sur la bonté de Dieu. Même quand je souffre à cause de mon péché, je peux encore compter sur la bonté de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps avec la prière d'un pécheur, des versets 2 à 6. L'Église des premiers temps a classé ce psaume 6 parmi les psaumes de pénitence, c'est-à-dire des psaumes qui comportent l'expression d'un regret par rapport au péché. Et il est vrai que dans notre texte, cette repentance est plutôt implicite. Mais il est quand même question de péché, ou en tout cas, il est question de la colère de Dieu. Et avant de nous pencher sur ce que David demande précisément à Dieu, eh bien, j'aimerais d'abord dire un mot de la notice qui se trouve au verset 1. Au chef de chœur, avec instrument en cordes, sur la harpe à 10 cordes, à 8 cordes, pardon, psaume de David. Cette notice n'est pas l'ajout d'un éditeur moderne. Elle fait partie du texte original et elle mérite donc notre attention. Même si parfois, lorsque nous lisons ces notices, elles nous paraissent un peu énigmatiques. Mais qu'est-ce que nous apprenons ici au psaume 6 et dans ce premier verset? Eh bien d'abord que ce psaume est une composition de David. Et ensuite qu'elle est destinée à être chantée et accompagnée par des instruments. C'était donc ce psaume 6. C'était donc un chant qui avait sa place dans le culte de l'époque. Pourrions-nous aujourd'hui chanter de telles paroles? Je relis juste les premiers versets. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi ? » Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ? Nous savons bien peu de choses sur les circonstances réelles qui étaient à l'origine de ce psaume. Et certains commentateurs estiment que la maladie de David était liée à son péché. Alors, ce n'est pas systématiquement le cas, mais apparemment, à ce moment-là, David était dans cette posture-là. Il sait qu'il n'est pas irréprochable devant Dieu, mais il en appelle à moins de rigueur. Oui à la discipline de Dieu, oui à la punition que méritent les fautes, mais s'il te plaît, ne déverse pas toute ta colère. Oui, vous avez bien entendu, oui à la discipline de Dieu, à sa correction, mais s'il te plaît, ne déverse pas toute ta colère. David se sait coupable et il sait également que Dieu peut châtier avec mesure. Dans un autre de ses psaumes, David dit, psaume 103, versets 8 à 10, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Si nous avons péché, Dieu a de justes raisons d'être en colère. Mais il n'est pas implacable et cruel au point de ne plus nous entendre quand nous demandons « Aie pitié de moi ». David vit la douloureuse expérience de la discipline de Dieu, de la correction de Dieu. Et en même temps, il fait appel à sa grâce. Et dans cette situation d'extrême faiblesse, David n'a aucun autre recours si ce n'est l'Éternel. Et rien que dans ces versets, David l'appelle 5 fois. Verset 2, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère. » Verset 3, « Aie pitié de moi, Éternel. » Verset 3 encore, « Guéris-moi, Éternel. » Verset 4, « Et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Et le verset 5, « Reviens, Éternel, délivre-moi. » Quand nous nous sentons nous-mêmes au plus mal à cause de notre péché, vers qui devrions-nous nous tourner ? David nous montre l'exemple, vers le Seigneur. Oui, dans nos heures sombres, quand à cause de notre péché, Dieu nous semble loin ou absent, nous avons encore la possibilité de nous tourner vers lui. Et dans la souffrance, je peux dire comme David, jusqu'à quand ? Et si Dieu me répond, je sais que ce ne sera pas parce que je l'aurai mérité. Non, David le sait bien, il prie Dieu de le sauver, non pas en vertu de ce qu'il aurait fait de bien, mais à cause de la bonté de Dieu. Cette bonté qui caractérise le Dieu qui fait grâce. Oui, c'est ainsi que l'Éternel s'est présenté à Moïse autrefois, en Exode 34. Il est l'Éternel, l'Éternel, un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. David sait que l'Éternel s'est présenté ainsi et qu'il est ainsi. David le sait et c'est pourquoi il s'en remet uniquement à la grâce de Dieu. Au verset 6, David ne pense pas à l'espérance au-delà de la mort. Il ne voit dans la mort que son inconvénient. Si David meurt, il ne pourra plus être parmi son peuple en train de louer Dieu. David accordait un tel prix à la louange de l'Éternel qu'il ne voulait pas en être privé. Il voulait encore louer Dieu pour ce qu'il avait fait. Mais comment le ferait-il s'il n'est plus du côté des vivants? Et cela m'a questionné personnellement. Est-ce que moi aussi, je demanderais à Dieu un sursis de vie en vue de pouvoir encore le louer ici-bas? Autant on demanderait à Dieu de vivre plus longtemps pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille ou ses amis, mais demander à Dieu de vivre plus longtemps afin de continuer à lui rendre un culte, c'est là, me semble-t-il, la prière d'un adorateur. Et cela m'amène à réfléchir quant à l'importance que j'accorde à louer Dieu. Est-ce que je demanderai à Dieu un peu plus de temps sur cette terre afin de continuer à le louer? Et David exprime au verset 4, et j'attire votre attention sur ce verset en particulier, « Mon âme est toute troublée. » Mon âme est toute troublée. Dieu semble loin, j'ai péché contre lui, mon âme est toute troublée. Et des siècles plus tard, le descendant de David, Jésus, prononce des paroles similaires. À l'approche de son arrestation et de sa mort sur la croix, Jésus dit à ses disciples, « Maintenant, mon âme est troublée. » Jean chapitre 12, verset 27. Jésus n'a rien à se reprocher devant le Père, mais son âme est troublée à l'image du trouble qui secoue le pécheur. Jésus, qui va porter le poids de nos fautes sur lui, a de quoi être remué intérieurement. Et cela signifie pour lui qui est innocent, subir le lourd châtiment que méritent nos fautes. Cela signifie faire face à la colère divine sans ménagement. C'est pourquoi, dans la situation particulière de Jésus, la suite de ce verset que je vous ai lu dans l'évangile de Jean est différente de notre psaume. Et je voudrais relire Jean chapitre 12, verset 27. Écoutez bien. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Est-ce que vous voyez la différence avec notre psaume ? Oui, mon âme est troublée, mais est-ce que je demanderai « délivre-moi » ? Non, je suis venu pour ça. Son âme est troublée, mais notre Seigneur n'a pas demandé la délivrance. Il est allé jusqu'au bout, parce que c'était le plan divin auquel il a consenti, parce que c'était l'unique moyen de sauver les pécheurs que nous sommes. Pour nous, Jésus a accepté de ne pas être épargné, de ne pas être délivré de cette heure. La colère divine est vraiment tombée sur lui pour que nous n'ayons pas à la subir. C'est pourquoi, comme David, en comptant sur la grâce de Dieu, nous pouvons aussi prier ainsi, « Ne me punis pas dans ta colère. » Non, Dieu ne nous consumera pas dans toute sa colère, car son Fils a volontairement pris notre place. Oui, quand nous avons nous-mêmes offensé Dieu, quand nous sommes sous sa discipline, nous avons encore l'espoir d'être entendus. Nous venons à Dieu, comptant uniquement sur sa grâce, puisqu'en péchant, nous avons perdu tout mérite, et il ne nous reste que sa grâce. Et puisque Christ est mort pour moi et que je n'ai pas à subir la colère de Dieu pour toujours, je peux faire la même demande que David. Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Nous venons de voir ce que David a exprimé dans sa supplication. Et maintenant, dans les deux versets qui suivent, arrêtons-nous un moment sur les pleurs d'un pécheur. Les versets 7 et 8, les pleurs d'un pécheur. Vous l'avez probablement déjà expérimenté vous-même, vous l'avez aussi vu chez les autres. Il existe dans l'expérience humaine des larmes qui traduisent un si grand chagrin, une douleur si profonde dans le cœur. Et alors que je réfléchissais à cette capacité donnée par Dieu d'extérioriser nos souffrances les plus grandes, je me suis dit que notre Créateur avait vraiment pensé à tout. Imaginez un instant le calvaire que ce serait de ne pas pouvoir pleurer, d'avoir toute cette souffrance contenue à l'intérieur de nous et qui nous ronge sans pouvoir sortir. Ce serait tout simplement insupportable. Mais Dieu nous a donné la capacité de l'exprimer par des larmes. Et dans sa douleur profonde, accentuée par des personnes qui le persécutent, le psalmiste pleure. Et c'est ce que nous lisons au verset 7 et 8. « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. » Notre psalmiste est au plus mal et le chagrin ne lui laisse aucun répit. Et ses ennemis qui apparaissent ici soudainement dans notre texte profitent de son état de faiblesse et le tourmentent. Certains voient dans cette persécution la marque de la punition divine. Et David n'en peut plus. Contrairement aux psaumes 3 et 4, il ne s'endort pas ici en paix. Il reste troublé. Il n'en dit pas plus. Est-ce à cause du fait que Dieu lui semble loin à ce moment-là? Est-ce à cause de la culpabilité qu'il ressent par rapport à son péché? Est-ce les larmes d'un pécheur qui se repent? Peut-être tout cela à la fois. Et Jean Calvin va même plus loin. Il commente en disant que David fait même l'expérience de voir l'enfer s'ouvrir sous ses yeux. Sans doute dans le sens que sa culpabilité l'a conduit à penser qu'il ne méritait, qu'il ne pouvait mériter que l'enfer, c'est-à-dire d'être séparé à jamais de Dieu. Qui d'entre nous a déjà connu une telle angoisse? Je me souviens l'avoir déjà expérimenté il y a bien longtemps de cela, le sentiment de ne mériter que l'enfer. Et Calvin écrit à propos de ces versets, « Ceux qui ont expérimenté, même à un degré modéré, ce que c'est que de lutter avec la peur de la mort éternelle, seront satisfaits de ce qu'il n'y a rien d'extravagant dans ces mots prononcés par David. » Non, David n'en fait pas trop. Effectivement, il l'exprime d'une manière hyperbolique, mais il n'en fait pas trop. La douleur de David n'est pas moins intense. Certains commentateurs le pensent, David pleure sur son péché. Mais il y a larmes et larmes. Ce ne sont pas ici des larmes de crocodile. Elles sont au contraire sincères. Sinon, David ne pourrait pas dire au verset 9, « L'Éternel entend mes pleurs. » Dieu n'est pas dupe et il sait reconnaître la vraie tristesse. D'ailleurs, si Dieu nous conduit à la tristesse, c'est toujours salutaire pour nous. L'apôtre Paul l'explique très bien aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 11. « Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. » En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. La tristesse selon Dieu est celle qui nous pousse à changer d'attitude. Quand avons-nous, pour la dernière fois, ressenti cette tristesse selon Dieu? Tristesse d'avoir offensé Dieu. Et si nous sommes lucides avec nous-mêmes, nous trouverions des raisons d'être tristes à cause de notre péché. Et cette tristesse, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous conduirait au changement. Comme je l'ai dit à l'instant, le verset 9, mentionne le fait que Dieu a entendu les pleurs de David. Littéralement, l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Les larmes du pécheur qui se tourne vers Dieu ne passent jamais inaperçues. Déjà, nous pouvons affirmer que David n'a pas pleuré en vain. Et donc, après la prière d'un pécheur, après les pleurs d'un pécheur, Le psaume se termine, comme les psaumes qui précèdent, par une tonalité positive et même triomphale. Voyons ensemble l'assurance d'un pécheur. Versets 9 à 11. Soudain, David retrouve de l'assurance. Désormais, la présence de ses ennemis ne l'inquiète plus. Il relève la tête et s'exclame, regardez le verset 9, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » David est toujours le roi choisi par Dieu. Et Dieu ne lui a pas retiré sa faveur. Bien au contraire, David peut en témoigner, l'Éternel a entendu ses larmes autant que ses paroles. Et là où le psalmiste a crié « Aie pitié de moi », Dieu est intervenu. Et nous l'avons vu dans les semaines passées, David avance toujours avec cette même certitude, à cause de la bonté du Dieu qui a fait alliance avec Israël. Psaume 3, verset 5, « À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Psaume 4, verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Et psaume 5, verset 4, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Et tout à l'heure, Michaël aussi nous l'a rappelé. Cette assurance que nous avons, que Dieu nous entend. Parce qu'en Christ, engagés dans une relation réconciliée avec Dieu, sous la nouvelle alliance, nous avons la même certitude que David. Dieu entend quand nous crions à lui. Mais c'est en Christ que nous avons cette certitude-là. Dieu entend le pécheur qui se tourne vers lui, le pécheur qui reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Et avec l'apôtre Paul, nous pouvons dire en toute assurance, et c'est déjà un teaser pour le week-end, Romains chapitre 8, versets 31 à 34. « Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera, complété, contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort. » Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. À cause de tout ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous, nous avons une certitude inébranlable que Dieu est pour nous et qu'il entend quand nous crions à lui. Une certitude inébranlable. Et si David a encore la faveur de Dieu, il n'en est pas de même pour ses ennemis, dont le sort nous est décrit au verset 11. « Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain, couverts de honte. » Là où David était troublé, ce sont maintenant ses ennemis qui le sont. Et peut-être une traduction plus littérale rendrait compte de cela. Au verset 3, « Mon âme aussi est fort troublée. » Et au verset 10, « Tous mes ennemis seront honteux et fort troublés. » Renversement de situation. Le trouble passe dans le camp ennemi. Eux qui pensaient triompher sont maintenant défaits par Dieu, vaincus par la honte. Et ce triomphe sur les ennemis nous rappelle le triomphe final que Dieu aura sur ses ennemis. Ce jugement des ennemis de David anticipe le jugement final qui s'abattra sur tous les ennemis de Dieu. Nous en avons parlé la dernière fois. Et ce qui nous permet d'avoir une telle lecture ici, c'est la manière dont Jésus reprend les mots du verset 9 dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je vous relis les versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Jésus reprend les paroles du psaume 6. Jésus avertit celles et ceux qui sont dans l'illusion qu'ils seront sauvés. Il met en garde contre la fausse assurance. Et s'il reprend ici les paroles du psaume 6, « Vous qui commettez le mal, éloignez-vous de moi », c'est bien pour désigner ses ennemis, comme David l'a fait en son temps. Et parfois, ces paroles de Jésus que je viens de lire font peur aux croyants, et dans un certain sens, à juste titre. Elles sont à prendre au sérieux. Mais en même temps, au jour du jugement, Christ ne repoussera pas celui ou celle qui n'est plus son ennemi. Si ces paroles « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal » désignent les ennemis de Christ, alors si nous ne sommes plus de ce côté-là, nous n'avons rien à craindre. L'assurance du pécheur qui se repent, c'est qu'il n'est plus du côté des ennemis de Dieu. C'était en tout cas l'assurance de David, qui est si confiant à la fin de ce psaume. Et c'est aussi la nôtre, si nous avons saisi que par grâce, Christ a payé pour nos fautes. Et que par grâce, Dieu accueille celui qui s'en remet complètement à sa miséricorde. Et un autre passage de l'Épître aux Romains doit définitivement nous convaincre. Romains chapitre 5, versets 8 à 10. Mais voici comment Dieu prouve son amour pour nous, envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison, sauvés par sa vie maintenant, que nous sommes réconciliés. Sauve-moi à cause de ta bonté. C'est ainsi que j'ai intitulé ce message en reprenant le verset 5 de notre psaume. Oui, ce n'est qu'à cause de la bonté de Dieu, ce n'est qu'à cause de sa bonté que Dieu daigne entendre nos pleurs. C'est par fidélité à son alliance que Dieu reçoit la prière du pécheur qui se repent. C'est parce que Christ n'a pas demandé d'être délivré de la colère divine que Dieu peut faire grâce. Et le psaume 6 nous enseigne que même quand je souffre à cause de mon péché, je peux encore compter sur la bonté de Dieu. La manière dont le psaume se termine sur cette touche positive est un fort témoignage de la bonté de Dieu. Dieu a entendu les prières et les pleurs de David, et c'est un espoir pour nous. Et un espoir d'autant plus grand et une assurance d'autant plus grande que nous savons qu'en Christ, nous pouvons avoir une telle confiance. Ce n'est pas le péché qui aura le dernier mot dans notre vie, c'est Dieu et sa grâce surabondante. Et je termine par ces mots de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour nous rappeler que notre lutte contre le péché n'est pas terminée et que la correction du Seigneur à notre égard est salutaire. Voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercés, un fruit porteur de paix. la justice. Alors qu'il en soit ainsi pour nous. Amen.